Samuel Blumenfeld, Les derniers jours de Marlon Brando, c'est aux éditions Stock et vous venez de recevoir le prix de la rentrée à l'occasion du Salon des écrivains chez Gonzague. Alors parlons de Marlon Brando, comment est venue cette passion pour Marlon Brando?
C'est pas, d'abord, bon, quand on s'intéresse un tant soit peu au cinéma, c'est impossible de ne pas passer par la case Brando. Là où c'était un peu plus particulier, ou là où la case Brando s'est transformée en fascination, c'est que d'abord, bon, étant romancier et journaliste, quand on est journaliste et qu'on écrit sur le cinéma, comme c'est mon cas, au journal Le Monde, Marlon Brando a toujours été l'homme que vous ne pouviez pas rencontrer puisqu'il ne rencontrait pas les journalistes. Il en a rencontré un dans sa carrière et c'était par incidence puisque Brando était ivre. Mais donc sinon, on ne pouvait pas rencontrer Brando. Donc il y avait toujours cette attirance pour justement ce qui était impossible. Donc du coup, ce qui donne lieu à un roman, parce que le roman permet de rendre possible ce qui autrement est impossible, ce qui dans le domaine de la non-fiction est impossible. Maintenant, la question, pourquoi les derniers jours de Brando? Pourquoi pas les premiers, ou pas ceux du milieu, ou ceux de la dernière partie, mais vraiment les derniers jours, ça, on va dire la dernière année? C'est ce précisément, Brando était devenu la contradiction de ce qu'il avait incarné. Et je pense même qu'il avait fini par détruire, en fait, tout ce qu'il avait été. C'est pour ça, c'est ce qui me fascinait dans cette dernière année. Alors, qu'est-ce qui se passait dans cette dernière année? Il était seul, reclus dans sa maison d'Hollywood Hills, qu'un syndrome très américain, en fait. Le syndrome très américain des gens très puissants. Et dans le cas de Brando, sa puissance était essentiellement symbolique, mais elle était réelle. Donc, tous ces gens puissants, en fait, qui terminent seuls, reclus dans une maison dont ils ne sortent plus et dans laquelle il est devenu presque impossible de rentrer. Donc, il y avait cet élément m'intéressait beaucoup. Il y avait le fait que Brando était en prise de poids considérable. Il avait 140 kilos. Enfin, je veux dire, il était devenu la négation de lui-même. Il était autrefois cette toile de maître, en fait, qu'il s'est acharné lui-même à la serrer pour ne plus ressembler à rien. L'autre élément, c'est qu'en fait, Brando a terminé sa vie ruinée. En fait, c'était en contradiction complète avec l'idée qu'on s'est d'une star, qui est donc quelqu'un qui a gagné suffisamment bien sa vie. Et Brando l'a gagné quand même très grassement, mais justement, c'était un très mauvais homme d'affaires. C'est quelqu'un qui a très très mal géré sa vie. Donc à la fin de sa vie, en fait, il était en recherche de liquidité et il cherchait à faire du commerce. Il cherchait à ouvrir, il voulait ouvrir un site internet qui se serait appelé marlonbrando.com, où il aurait commercialisé diverses choses, ses autographes, une méthode pour construire des habitats contre les tremblements de terre, ou alors un autre guide pour tendre des tambours. Donc un fatras, une incohérence qui m'interloquait, qui font qu'effectivement au bout ça donne ce livre.
Mais qu'est-ce qui a détruit Brando? Est-ce que c'est Brando lui-même qui s'est détruit, ou est-ce que c'est finalement justement cette image qu'il a reflétée et où il s'est fait manger par cette image, il s'est fait prendre à son propre piège?
C'est Brando lui-même qui s'est détruit parce que c'était un génie autodestructeur. Une des caractéristiques, c'est que Brando est un génie dans sa discipline, c'est véritablement un acteur de génie, mais il détestait ce métier. Et donc, en fait, très rapidement, il s'est puni. Il se punissait d'avoir exercé ce métier. D'ailleurs, très rapidement, dès le début des années 60, il choisit ses rôles uniquement pour des raisons financières. Quand il est à court de liquidité, bon, il prend le scénario qui passe. La cohérence de la carrière de Brando se comprend uniquement à partir de là, très tôt, quand il a besoin d'argent. Il n'y a pas de raison artistique. Ce qui est choquant pour un acteur d'un tel génie, mais c'était la réalité. Donc l'homme qui détruit Brando, c'est Brando.
Alors ça me fait penser à Howard Hughes, qui s'est autodétruit lui-même.
C'est le syndrome Howard Hughes, qui est au-delà de ça un syndrome très américain. Quand vous arrivez à un tel niveau de puissance, vous autodétruisez après avoir bâti un écosystème où vous êtes seul et reclus.
Alors qu'est-ce qui fait que finalement Brando reste et demeure l'icône du cinéma américain?
Il reste cela parce que d'abord son génie ne peut pas être nié, ne peut pas être effacé. Donc il reste quand même une bonne quinzaine de films géniaux. de Sur les quais au Parrain, en passant par Apocalypse Now qui vient de ressortir. Donc si vous voulez, il y a une inscription incomparable dans l'histoire du cinéma. Beaucoup de films sont grands, d'autres aussi sont d'une médiocrité presque fascinante pour un acteur pareil. Mais surtout, à chaque fois, transparaît le génie spécifique de Brando. C'est-à-dire, si vous voulez, cette capacité, en fait, à faire son film à l'intérieur du film des autres, même quand il s'agit de très grands metteurs en scène. C'est qu'en l'occurrence, à d'une certaine manière, écrire lui-même ses rôles.
À moins d'être un spécialiste de Brando, personne ne connaît ses films médiocres ou ses films dits alimentaires.
Non, absolument. Personne ne les connaît, parce que tout simplement, l'histoire ne veut pas les retenir. C'est logique. Donc, de toute façon, ce qui reste, c'est effectivement le Brando des grands films. Le temps, de toute façon, fait son œuvre.
Merci Samuel Blumenfeld. Je rappelle donc prix de la rentrée aux écrivains chez Gonzague. Les derniers jours de Marlon Brando, c'est publié aux éditions Stock. Merci à vous. Merci.